foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 30 septembre 2020. Alors deux fois par mois, la table ronde de Foi et Turbulence accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui analysent pour nous l'actualité toute récente. Une semaine sur deux, nos trois invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Alors, on demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui, parfois, nous assaillent ou nous submergent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Laissez-moi vous les présenter. D'abord en studio, et pour la première fois cette saison, Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions de l'UQAM. Bonjour Louis.
Bonjour François.
Alors, bienvenue en studio aussi pour la première fois en 6 mois.
Ah ben oui, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Alors, situation sanitaire oblige, deux analystes sont à l'extérieur du studio de Radio-VM. Ils sont déjà prêts et prêtes à réfléchir avec nous grâce à un bon vieux téléphone. D'abord, de Montréal, Suzanne Loisel, une religieuse auxiliatrice et une militante du collectif Échec à la guerre. Bonjour Suzanne.
François, quel plaisir.
Oui, un grand plaisir. Vous aussi, c'est la dernière fois qu'on s'était parlé au micro de Foi et Turbulence, c'était au mois de mars dernier.
Tout à fait.
Alors, participe aussi à cette table ronde Frédéric Barriot, responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bienvenue Frédéric.
Bonjour François.
Aussi à Montréal. Bon, alors, ce qui va très bien, en tout cas pour nos gens, de se rendre à leur travail actuellement, c'est que c'est très tranquille sur les routes, n'est-ce pas, Frédéric?
Oui, j'ai pris les transports en commun, mais effectivement, c'était fluide.
C'est aussi tranquille dans le transport en commun. Ouais. Il y a beaucoup moins de monde. Alors, aujourd'hui, à l'émission Foi et Turbulence, il sera question d'un sujet dont on parle sans arrêt, la COVID-19, mais aussi de problématiques internationales dont on ne parle que trop rarement dans les médias d'ici. Mais d'abord, allons faire un tour aux États-Unis. Alors, les élections présidentielles aux États-Unis sont prévues le 3 novembre, dans un peu plus d'un mois. Les événements qui pourraient avoir des conséquences sur le résultat du vote se produisent à un rythme effréné, un rythme qui ne faiblit pas chez nos voisins du Sud. À titre d'exemple, le décès le 18 septembre dernier de la doyenne de la Cour suprême, la juge Ruth Bader Ginsburg, à l'âge de 87 ans, a failli imposer un nouveau tempo à la campagne, failli parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Les démocrates ont demandé au président de ne pas précipiter la nomination d'une remplaçante pour cette juge qui était reconnue pour ses idées progressistes, alors que le président a plutôt vu une chance de contrôler pour au moins 20 ans cette institution, la Cour suprême, qui peut faire et aussi défaire bien des lois. Alors, des noms de candidats potentiels ont rapidement circulé. Évidemment, comme c'était le président Trump qui est au pouvoir, ce sont des conservateurs. Certains étaient pro-armes, d'autres étaient contre les droits des homosexuels. En tout cas, des juges et des noms, des candidats et des candidates assez bien trempés. Alors, le samedi dernier, le président Trump a confirmé la candidature de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis. Son choix, le choix présidentiel, doit être entériné par le Sénat américain et qui est à majorité républicaine et pourrait se produire le 26 octobre, donc quelques jours avant même l'élection présidentielle. La Cour suprême comptera alors 6 juges nommés par les différents présidents républicains et 3 qui ont été nommés par les présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama. Alors, Louis Rousseau, la première question. Alors, pourquoi est-ce que cette nomination est si importante durant cette campagne électorale?
Écoutez, je crois qu'il faut faire un demi-pas en arrière, en tout cas, pour rappeler à nos auditeurs que la place de la Cour suprême aux États-Unis a un côté névralgique que nous n'avons pas tout à fait, en tout cas dans nos institutions politiques de nature britannique. La République américaine, première république démocratique instaurée dans l'histoire occidentale, s'est dotée, peu après la Révolution américaine, d'un texte fondateur qui s'appelle la Constitution. Et la Constitution a pris au fil des années la force et l'importance de ce que les catholiques appelleraient les Écritures saintes, et les chrétiens en général appelleraient les Écritures saintes.
Un texte fondamental.
Un texte absolument fondamental. Et devant un texte fondamental, les Américains appellent cela, quand fonctionne la Cour, et dans leur philosophie politique, de dogma, de faith. C'est-à-dire que c'est comme le credo en christianisme. Quand on se demande qu'est-ce qu'il faut croire, pas croire, on retourne au texte fondamental. Mais bon, chacun peut lire les textes fondamentaux, mais il existe dans les institutions une institution dont le rôle, c'est d'interpréter précisément quel est véritablement le sens de ce texte-là, qui est déjà un texte assez ancien, hein, qui date de la fin du 18e siècle. Et c'est... Mais on peut l'interpréter, et ça encore, les chrétiens savent cela, comment interpréter les évangiles, comment interpréter le credo. Il y a plusieurs manières de les interpréter. Il y a des experts, il y a des gens dont le rôle, c'est les interpréter. En catholicisme, c'est l'Église dans ses chefs qui a comme rôle d'interpréter la foi fondamentale. Alors, prenons ça comme exemple. Et ça va nous aider à comprendre que, aux États-Unis, nommer un juge, c'est nommer quelqu'un qui va intervenir dans les débats internes entre les neuf juges pour décider si telle loi, parce qu'on intervient dans l'interprétation des lois adoptées par l'Assemblée, si telle loi est conforme ou non à la foi fondamentale au dogme politique républicain américain. C'est dans ce contexte-là, la Cour, depuis plusieurs années, et là, Trump va avoir réussi à nommer 3 juges. Exact. Bon, nous frémissons d'horreur, j'ose le dire, et je révèle un peu mes options, mais je suis pas le seul chez les auditeurs à les avoir. C'est incroyable qu'un président aussi peu présidentiel ait eu historiquement, il l'a déjà, en fait, la capacité d'imposer, vous l'avez dit, pour les décennies à venir, oui, une cour entièrement conservatrice, qui interprète le texte de la Constitution en se disant « qu'est-ce que les mots veulent dire à l'époque où ils ont été écrits ?»
Hein? Alors, la personne qui est nommée, Amy Coney Barrett, est une catholique, juge, oui, toute jeune.
Mais non simplement est une catholique, oui. François, mais elle se joint à 5 autres juges déjà là, eux aussi catholiques et d'éducation catholique. On ne le dit pas, cette cour est devenue une cour majoritairement catholique. Ça ne dit pas qu'elle devrait être conservatrice, mais de facto, l'interprétation qu'ils pratiquent, leur philosophie juridique, s'appelle l'originalisme. Donc, on se demande pas, est-ce qu'aujourd'hui, s'ils avaient à réfléchir, les pères de la Constitution diraient ceci? On se dit, qu'est-ce que eux voulaient ont dire, dit, voilà. Voulaient dire, et on reste là-dedans. Et là-dessus, elle va intervenir sur 2 choses très sensibles. Tout ce qui touche à l'avortement, et là, il y a des lois adoptées qui donnant une extension plus large à la chose, qui vont probablement être battues. Et sur ces questions-là, donc, c'est sur cette question-là où aux États-Unis, on est très polarisé que cette nomination par un président vient empêcher, vient canoniser, si vous voulez, l'interprétation de la Constitution d'une côté. Alors, ça va provoquer la polarisation croissante dans la société américaine. D'où l'importance de cette situation-là.
Alors, une situation qui est polarisée, mais qui est polarisée avant même les élections.
Oui.
Et j'aimerais entendre Frédéric là-dessus. Le New York Times, lui, a mis la main sur deux décennies de déclarations d'impôts de Donald Trump. L'homme d'affaires qui est devenu président n'aurait versé que des sommes dérisoires en impôts sur le revenu. Il a toujours refusé de dévoiler ses rapports d'impôts et il a qualifié les révélations du New York Times de, sans surprise, fake news. Frédéric, j'ai l'impression que le président des États-Unis paie moins d'impôts que vous.
Oh oui, indéniablement. Que ça arrive quand même à point nommé. Par une curieuse ironie, j'ai vu circuler cette semaine donc un discours de février dernier du pape François où dans lequel il faisait une analogie extrêmement forte entre l'évasion fiscale et presque le meurtre.
Ah bon?
En tout cas, en contexte de pandémie. Mais je trouvais quand même le contexte ô combien intéressant. Rappelons-nous quand même qu'une bonne partie de la base électorale, il faut le dire, là, ça a été dans la Rust Belt, donc chez les travailleurs bleu. Rappelez-vous la campagne électorale précédente où on opposait Wall Street à Main Street. Hein? Ils étaient dans le sillage du mouvement Occupy. Donc, une bonne partie de l'électorat, vraiment, de cette classe ouvrière déclassée, donc des États industriels du Nord-Est, mais aussi du Midwest. Donc, voilà, ça devenait comme l'élément qui cristallise. Donc, il y a eu une identification quand même derrière Donald Trump d'une partie de cet électorat-là pour diverses raisons. Mais là, j'ai l'impression quand même que j'ose espérer quand même que sur la base de cet électorat-là, parce que clairement, on est en face ici d'une injustice quand même assez assez criante, et d'autant plus que parmi les éléments de ce que j'ai lu, donc parmi les éléments qui expliquent donc un si bas taux d'imposition, c'est le fait, bien entendu, que les pertes engendrées notamment par ces entreprises, et ça c'est l'un des aspects typiques, je dirais, du capitalisme financiarisé. Donc, c'est ce qui fait en sorte, finalement, qu'il a payé très, très, très peu d'impôts. Donc, on ose espérer, bien entendu, que chez cette classe ouvrière-là, ça va être quand même un point tournant. Et en même temps, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous révèle encore plus sur le personnage, grossier personnage qu'il est, mais fondamentalement, c'est ça. Donc, c'est vraiment, ça nous dit comment il est très peu présidentiel, finalement. Donc, il n'a même pas ce minimum vraiment de justice fiscale. En même temps, tout ça est extrêmement révélateur parce que l'une des mesures législatives qui a marqué dès le début de son mandat, ça a été, rappelez-vous, là, ces baisses d'impôts scandaleuses. Donc, au 1%, comme on le dit souvent, donc aux Américains déjà les plus riches, si bien que certains grands hommes d'affaires comme Bill Gates et Warren Buffett qui disent « taxez-nous, s'il vous plaît ». Donc, oui, tout à fait, il y a un enjeu fondamental.
Alors, donc, de petits rapports d'impôts, de petites sommes à déposer, on parle même de 750 $ en 2016 lorsqu'il a été élu président des États-Unis. C'est quand même pas banal. Et Donald Trump s'est défendu cette semaine en disant quelque chose comme « ben tout le monde cherche à payer moins d'impôts, n'est-ce pas? » Alors, voilà, j'imagine qu'on n'aura pas quand même accès à l'ensemble de ces documents. Là, il prétend qu'il a versé des millions de dollars, mais finalement, on ne les a toujours pas. Mais hier soir, ce débat-là est revenu lors du fameux débat, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. On a discuté des impôts, mais on a aussi parlé de politique de santé, de la COVID-19. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été mentionnés pendant ces 90 minutes de débat. Il y a eu beaucoup d'invectives aussi qui ont été lancées. Même un moment très exaspéré, Joe Biden a prononcé, a lancé un très sonore « Taisez-vous », et c'était assez pathétique d'une certaine manière. Suzanne, vous avez, vous, écouté le débat.
Eh oui. Quelle épreuve. Et je présume que c'est une épreuve pour beaucoup d'autres mondes que moi. Effectivement, vous avez évoqué les sujets qui ont été en fait abordés, entre autres le bilan des candidats, les enjeux autour de la Cour suprême, la pandémie, le contexte économique du pays, les violences urbaines, le racisme, les enjeux électoraux, le processus électoral, le vote postal. C'était une liste d'épicerie extraordinaire. Le problème, c'est que ça a été, je présume qu'il y en a d'autres aussi qui l'ont écouté parmi vous, mais c'est un débat absolument chaotique. C'était un débat où, on s'écoute pas, quoi. Mais on a retrouvé le Trump que l'on connaît depuis X années, frondeur, narcissique, agressif. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir comment, à travers cette soirée de discours à la présidence, c'est révélateur des fractures dans la société américaine. Une société, le débat était polarisé, la société américaine l'est. Le débat mettait en perspective des divisions fondamentales sur la gestion de l'économie, la gestion de la COVID, la compréhension des violences urbaines, la crédibilité autour du processus électoral. Il n'y avait aucun terrain d'entente, il n'y avait aucun élément commun qu'on pouvait dire « Ah, peut-être que sur ce sujet, il y a un minimum de consensus, d'orientation, etc. » Donc, ma première réaction, c'est « Ce débat a révélé une fracture de la société américaine et le débat a été très porteur de ça. » L'autre aspect qui m'a frappé, c'est qu'on les plans électoraux, les plans politiques et de Biden et de Trump, ça a joué beaucoup plus sur les attaques de l'un vis-à-vis l'autre. Mais ceci dit, je trouve que Biden a été d'une dignité par rapport à Trump. Je ne sais pas s'il y a des gens qui doutent encore que Trump a encore un minimum d'humanité. C'est une caricature et j'ai été très heureuse quand Biden l'a traité de clown, à part de l'invective que vous avez dit.
Oui.
Mais c'était exactement ça. C'est un clown qui n'a besoin que d'un espace médiatique, mais le contenu est d'une faiblesse extraordinaire.
Plusieurs observateurs disent que ce débat-là était à la fois nul en termes de résultats, et ça, c'est assez dramatique, et nul aussi en termes de prestance. Mais en termes de résultats, vous pensez que ça leur a eu des conséquences sur le vote du 3 novembre?
Moi, je pense qu'il y a, des noyaux durs des deux côtés,
oui,
qui ne bougeront pas. Il y a peut-être une frange très, très, très mince que ce débat pourrait avoir une influence. Mais en faisant une recension de certains articles ce matin, moi, je ne suis pas très sondage, mais je ne sais pas quelle est la portée de ce sondage, mais CNN publiait aux petites heures du matin que Biden aurait gagné de l'ordre de 60% et Trump de 28%.
Ah bon.
au niveau du débat. Bon, c'est un sondage parmi milliers. des milliers qui viendront dans les jours qui viennent.
Alors, vous avez entendu, Suzanne, à la fin de ce débat-là, le président, lorsqu'on lui a demandé est-ce que vous allez respecter le résultat du vote du 3 novembre, il a eu une phrase qui était un peu malaisante, hein, en disant « ben on verra bien ce qui va se passer le 3 novembre ». Alors, j'imagine que c'est un sujet, en tout cas, sur lequel on reviendra. Est-ce qu'on respectera la décision des Américains et des Américaines le 3 novembre? Ou bien si...
Pardon, je m'excuse, oui, mais oui, il n'a pas juste dit ça à la fin du débat. Ça fait plusieurs jours qu'il met en doute le processus électoral, l'intégrité de l'élection.
Et particulièrement le vote postal.
Le comptage des votes, et voilà, et le vote postal. Et il ne parle que de fraude déjà, anticipant probablement que sa fragilité commence à être sérieuse.
Voilà. Alors, on dit que c'est une campagne électorale qui est platonique, visiblement. Il y a énormément d'éléments. Et j'ai l'impression que dans les deux prochaines semaines, il y en aura d'autres dont on parlera à la prochaine émission Foi et Turbulence. De retour après une période de confinement, le premier ministre François Legault a déclaré lundi que trois grandes régions, Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches, devenaient des zones d'alerte maximale, des zones rouges. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre. On le fait pour mieux protéger les personnes aînées, pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'école, pour s'assurer que notre système de santé soit en mesure d'offrir les soins et les services nécessaires et pour préserver la vie économique de notre société. Chacun, chacune doit collaborer et réduire ses impacts sociaux au cours des prochaines semaines. Nous ne retournons pas à un confinement comme celui qu'on a vécu le printemps dernier. Nous ciblons plutôt les lieux et les activités qui représentent un trop grand risque en ce moment. Ce sont les paroles mêmes de François Legault. Alors, quelles sont ces mesures qui ont été annoncées? D'abord, en zone rouge, et c'est pour près de 5 millions de Québécois et de Québécoises, demain, le 1er octobre, jusqu'au 28 octobre, seuls les habitants d'une même adresse peuvent se rassembler. Les rassemblements dans les domiciles privés sont dorénavant interdits. Les lieux qui accueillent un auditoire, comme les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques, les musées, sont fermés. Les bars, les brasseries, les tavernes et les casinos seront aussi fermés, ainsi que les salles à manger des restaurants. Visiblement, Suzanne Loisel, on a de nouvelles mesures encore plus contraignantes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'assister à un retour à la case départ, un retour au 15 mars 2020?
Vous me déprimez complètement.
Vous n'étiez pas au courant de ces mesures-là.
Tout à fait. Je les ai lues et relues. Et imaginez-vous donc que je vis dans une RPA.
Oui.
C'est-à-dire une résidence pour personnes autonomes. Personnes âgées autonomes.
Oui.
Alors, vous imaginez l'impact de ces différentes mesures. Ceci dit, c'est pas ce qui est le plus important, mais moi, c'est qui me... Je dirais d'entrée de jeu que pour moi, la santé publique, c'est un enjeu majeur. Donc, il y a une responsabilité étatique par rapport à la santé publique. La COVID est un ennemi absolument féroce. Alors, ceci dit, je pense que c'est important qu'il y ait des mesures et des mesures qui protègent la population et qui protègent les plus faibles dans la population. Mais quand je regarde les mesures et quand je regarde l'application de certaines contraintes et consignes depuis le mois de mars dernier, je trouve qu'on nage dans une incohérence totale. Il faudrait donner quelques exemples, mais ce qui m'apparaît, par exemple, fermer une bibliothèque, fermer une salle de cinéma, par rapport à un Costco où il y a 300 personnes qui magasinent à peu près en même temps. Bon, j'exagère peut-être un peu sur le chiffre, mais à peine. Où sont les risques? Moi, je suis allée au cinéma. Et à la séance où je suis allée, en passant à voir le documentaire Femmes, je ne veux pas faire de publicité, mais allez voir ça, c'est magnifique. C'est interpellant, c'est questionnant sur la condition des femmes. Et ce qu'on entend avec ce qui s'est passé à Joliette hier, ça nous amène encore plus loin sur la question des femmes. Mais je ferme ma parenthèse. Écoutez, les mesures de sécurité étaient les mesures sanitaires étaient appliquées à l'extrême. Et on était, j'ai compté 8 personnes dans la salle de cinéma.
Mm-hmm.
Quand Monsieur Legault me dit la proximité au bout de 10 minutes, et on ne choisit même pas sa place, on nous place aux quatre coins de la salle. Pourquoi qu'on ferme les salles de spectacle? Pourquoi qu'on ferme les bibliothèques? Pourquoi? Et en même temps, si on pense à la santé physique, il faut penser à la santé dans une perspective globale. Il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect communautaire, il y a l'aspect personnel. Moi, ce que je suis absolument désarçonnée, c'est de voir, l'incohérence des mesures. Et moi, je pense que ces mesures, dans une perspective globale, favorisent l'économie plus que la culture, favorisent le revenu de la province, les impôts, tout ce que vous voulez, les commerces, les grosses entreprises, au détriment de la culture, au détriment de la socialisation, au détriment de... Là où je suis contente, et je finis avec ça, on veut protéger le système scolaire et particulièrement l'apprentissage, la socialisation des enfants. Là-dessus, je reconnais que moi, j'avais peur que même on aille mettre la hache là-dedans. Bon, est-ce qu'il fait du capital politique en disant on veut protéger les enfants, c'est important qu'ils socialisent, etc.? Mais tant mieux si on ne ferme pas les écoles. Parce que la transmission communautaire, oui, mais ce n'est pas la frange de la population qui est la plus attaquée. Bien sûr qu'un petit enfant ira voir son grand-parent, il y a un risque de transmission. Mais je pense que la socialisation est plus importante. Ceci dit, je souligne qu'il y a une incohérence et il y a des choix politiques, économiques derrière ça, et ça, on n'en parle pas beaucoup.
Mais un des choix, et je m'adresse à Frédéric là ici, un des choix, c'est justement de prendre toutes ces décisions-là, enfin d'enlever beaucoup de pression sur le système hospitalier, exact?
Oui, d'une certaine manière. Bon, l'un des éléments, puis là je vais faire du pouce sur ce que Suzanne vient juste de dire, donc ce qu'on observe dans cette deuxième vague, c'est que ce sont de fait les 18 à 45 ans qui sont rendus le groupe chez lequel il y a la plus forte contagion, donc la plus forte croissance donc de la COVID. Et là, vraiment, on peut pas faire autrement. Bien sûr, c'est une masse démographique considérable. On sait que les X et les Y sont devenus finalement le groupe démographique là le plus important au coude à coude maintenant avec les boomers. Donc, bien sûr que s'il y a une forte croissance de la contagion, c'est clair que ça va vraiment engorger. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, on voit quelques médecins donc prendre la parole pour exhorter les jeunes à être plus prudents. Ce qui m'énerve un peu dans la façon dont le discours social se présente, c'est qu'on va évidemment associer tout de suite les jeunes à la fête. Donc, je voyais François Cardinal cette fin de semaine, on voyait des jeunes au tam-tam du Mont-Royal, pas masqués ni rien. Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est que de fait, ces deux catégories sociales-là, particulièrement les milléniaux, travaillent dans le secteur des services.
Mm-hmm.
Et ce secteur des services-là, les petits commerces n'ont pas du tout été frappés par quelques formes de restrictions. J'aurais tendance à dire qu'il y a une corrélation assez étroite à faire entre la carte politique, finalement, et les choix politiques. Donc, les faits que des gyms, par exemple, demeurent ouverts,
oui.
Que les centres d'achat demeurent ouverts, mais qu'au même moment, donc, théâtre et ainsi de suite, il y a des restrictions. Donc, clairement, bien sûr, il y a un noyau dur, donc, d'une population qui est à risque, mais est-ce qu'on a finalement déployé l'artillerie lourde. Autre, et c'est typiquement néolibéral de ce gouvernement-là, que d'en appeler à la responsabilité individuelle, je vois pas un effort structurant, justement, pour protéger. Donc, protéger parce que finalement, bien sûr, il y a des personnes vulnérables, mais c'est ces jeunes-là, même si les déterminants de santé sont peut-être plus vigoureux que chez des gens plus âgés, mais il n'empêche que c'est chez dans cette strate de la société qu'il y a une forte croissance, et je vois pas aucun indice. Il y a pire encore. Donc, on a demandé au campus universitaire au début de l'été, donc d'accueillir au moins 30% de présentiel sur les campus. Pourquoi pensez-vous? Parce que derrière, autour des campus, il y a tout un réseau, bien entendu, de petites et moyennes entreprises, restos, commerces. Donc, je sens pas vraiment une grande cohérence. On a l'impression, bien sûr, ça a été dit et redit, qu'une bonne partie de l'agenda sanitaire est dictée par les chambres de commerce. C'est-à-dire qu'il y a des considérations économiques, finalement, qui viennent influer la prise de décision du gouvernement et du docteur Arruda.
Alors, ben merci en tout cas pour ces commentaires-là. Vous mentionnez, bien sûr, que ce sont les jeunes là, qui sont les plus touchés actuellement par cette épidémie. Il reste que j'ai l'impression, Louis Rousseau, que le message ne passe pas bien entre le gouvernement et la population, puisque pendant des mois, on a été confinés, il y a eu le déconfinement, et là, c'est de plus en plus une... En tout cas, maintenant, on ne parle pas de confinement, mais on parle de limiter les contacts sociaux. Mmh. Le message, visiblement, ne se rend pas à la base.
Oui. Ça nous fait réfléchir, tous les commentateurs, et nous y ajoutons... Il y en a eu, souligne différents aspects de la chose. Moi, une des choses qui me frappe beaucoup, c'est que notre difficulté, dont d'une part, la majorité de la population a suivi de très près. Les institutions auxquelles moi j'ai eu accès comme ça, comme tout le monde, ont mis en œuvre des mesures de protection. Hein? Comme Suzanne, je suis allé au cinéma. Je suis aussi allé au théâtre. Dans ces deux cas-là, j'ai été absolument plein d'admiration pour la façon dont étaient gérées les recommandations et par le suivi des gens qui étaient dans ces salles-là. Il n'y a pas eu de révolution là où j'ai passé. Au contraire, les gens s'appliquaient à mettre ou enlever le masque selon tout. Donc, il y a eu une observation dans ces endroits qui aujourd'hui sont fermés.
Oui.
Il y a eu une observation très responsable. Et je dirais, c'est presque tous les éléments qu'on appellerait du domaine culturel qui sont aujourd'hui, à cause des nouvelles normes, considérés comme essentiellement des lieux où la pandémie peut se multiplier, alors que ce n'est pas démontré. Dans tout, je dirais, il y a personne qui nous a donné les chiffres de naissance d'une épidémie à partir des lieux culturels comme tels.
D'une salle de théâtre bon, ou encore d'une salle de spectacle.
Et pendant tout ce temps-là, les bars, à ma connaissance, mais vous me corrigerez, on peut encore y avoir accès.
Oui, oui, absolument. Bon.
Dans les analyses de crise, les populations ont toutes sortes de choix et pour essayer de surmonter la crise. Bon. En gardant les bars ouverts...
Ils vont être fermés là, à partir de demain.
Complètement. Bon, merci beaucoup, vous me remettez dans la réalité
des normes. Mais ils sont toujours ouverts aujourd'hui. Là.
Oui, mais je veux souligner d'une part que les équipes qui procèdent à l'analyse des crises manquent vraisemblablement d'analystes qui touchent aux dimensions socio-culturelles. Il y a un contrôle essentiellement du discours médical, et ça, c'est une des limites. D'autre part, deuxième chose qui me frappe, c'est qu'on ne fait appel qu'à l'intérêt des individus ou à peu près. On fonctionne à l'intérieur de l'idéologie qui nous domine, c'est-à-dire l'État fournit des soins à un consommateur qui a droit de pouvoir exercer sa liberté sans limite. On ne fait jamais appel au fait que tout le monde devrait se dire l'État sert à la promotion du bien commun. On essaie toujours de retourner uniquement à nos intérêts individuels. si, dans cette logique-là qui est dominante dans le discours, l'individu est en droit de dire « Oui, mais moi, vous brimez mon accès à ce dont j'ai besoin. » OK. Et alors là, pour moi, ça, c'est une des causes, l'absence d'une philosophie politique répétée. L'État a le devoir de nous éduquer.
Alors, écoutez, je vous rappelle que ce soir, à minuit, une minute, ou plutôt à une minute demain matin, seuls les habitants d'une même adresse vont pouvoir se rassembler en zone rouge, ce qui représente près de la majorité du territoire du Québec. Les rassemblements dans les domiciles privés seront interdits et les lieux qui accueillent un auditoire, comme les salles de spectacle, les cinémas et les musées, seront fermés. On arrive à la deuxième partie de cette émission, Foi et Turbulence. Je vous rappelle que je suis en présence, en studio, avec Louis Rousseau, un professeur de l'UQAM, Suzanne Loisel au téléphone, une militante du collectif Échec à la guerre, et Frédéric Barriot, aussi au téléphone, du Centre Justice et Foi. Alors, passons toujours sur la COVID, là, mais discutons d'un aspect plus précis, la question des lieux de culte. Il y a un peu plus d'une semaine, à la surprise générale, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé que le nombre maximum de personnes autorisées à participer à un événement qui se déroule dans un lieu de culte passait dans toutes les régions du Québec de 250 à 50 personnes dès le 21 septembre. Pour les rassemblements qui ont lieu dans des salles louées, les lieux de culte, les événements festifs, les mariages, les barbecues, les pique-niques, ce sera maintenant 50 personnes, a déclaré le ministre Dubé, à la surprise de tous les intervenants dans le secteur. Le jour même, il a aussi annoncé que les régions de Montréal, Chaudière-Appalaches, ainsi qu'une portion de la Capitale-Nationale passaient au palier alerte, le palier orange. Dans ce cas, les rassemblements dans les lieux de culte n'étaient plus de 50 personnes, mais bien de 25. Les chefs religieux, réunis dans une table interreligieuse, ont déploré d'abord ne jamais avoir été prévenus. Ils l'ont appris lors de la conférence de presse du ministre Christian Dubé. Pire, ils disent n'avoir jamais pu discuter convenablement avec des représentants du gouvernement et de la santé publique depuis le début de la pandémie, alors que les lieux de culte étaient parmi les premiers lieux à fermer leurs portes à la mi-mars et les derniers à ouvrir leurs portes 3 mois plus tard. Alors, surprise, lundi encore, c'est le premier ministre, lui, qui a rajusté le tir. Disant avoir eu une entente avec des groupes religieux, le nombre de personnes permises dans un lieu de culte passait là de 50 à 250 personnes. Mais en zone rouge, il pourrait accueillir 25 personnes et ne serait pas fermé, comme les musées, les salles de spectacle et tout ça. J'ai l'impression, Frédéric, qu'on assiste à une baisse, une augmentation, une baisse, et pourtant, les lieux de culte ne sont pas des foyers d'éclosion reconnus.
Non, tout à fait. Pour avoir quand même moi-même assisté à quelques cérémonies religieuses, donc tout comme dans le cas des théâtres, je ne peux que vraiment acquiescer au fait que vraiment les protocoles sanitaires sont extrêmement, extrêmement rigoureux. Donc de ce point de vue-là, oui, ça peut être quand même une bonne nouvelle, encore que personnellement, j'ai pas été impressionné de la façon dont les deux interlocuteurs finalement ont échangé, si j'ose dire. Donc la rivalité quand même a été assez frappante. Bon, que de la part du gouvernement de François Legault, depuis le début de son mandat, dès la loi 21, en fait, ça a été le cas dans le cas de la réforme du programme de CR. Donc, il y a vraiment une tendance lourde. Ça a été le cas aussi pour la loi 40 et donc la mise au rencard du développement spirituel de l'élève. Donc, je pense que, clairement, il y a un positionnement là, donc qui l'amène vraiment à être en rapport extrêmement, extrêmement conflictuel avec les groupes religieux. Évidemment, face à ce silence-là de plomb, il y a eu l'impatience tout à fait justifiée de la part des groupes religieux. Mais bon, disons que j'étais de très solidaire au départ, constatant quand même d'abord le manque d'écoute et ensuite donc je considère quand même essentiel qu'on offre, et je pense surtout aux familles endeuillées, je pense aussi à toute une génération auprès desquelles la seule pastorale qu'on a proposée se cristallisait principalement autour de l'Eucharistie. Mm-hmm. Donc, les personnes pour lesquelles le jeûne eucharistique des derniers mois a été vraiment passablement difficile. Mais quelles alternatives a-t-on déployées justement pour mieux vivre ce jeûne eucharistique et donc cette privation? Et bon, on a vu vraiment des scénarios tout à fait grotesques. Donc, une vision appauvrie donc de l'Eucharistie. D'abord, des messes retransmises en ligne d'une part, et d'autre part, des fidèles qui demandaient à ce qu'on vienne leur livrer à la maison des hosties consacrées. Donc, toute la dimension communautaire, fraternelle, donc de la scène était complètement évacuée. Donc, je m'éloigne un peu, mais
oui, parce qu'on peut pas approcher ça au gouvernement.
Mais non, donc, qu'il y a une réouverture, en soi, c'est une bonne nouvelle. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait quand même une injustice assez flagrante quand on comparait, par exemple, les lieux de culte à des bars et à des salles de spectacle.
Voilà, bon,
Il y avait cette nouvelle donc d'un prêtre d'une église du diocèse de Chicoutimi qui disait, écoutez, là, mon église, l'église de sa paroisse, quand j'y réunis donc une communauté, je suis limité à 50 personnes, mais le soir venu, quand on organise un concert de musique classique, on peut y accueillir 250 personnes.
Oui, absolument.
Donc, une incohérence assez flagrante. Reste que, bon, le ton assez belliqueux que j'ai vu ce week-end, certains en appelant à la désobéissance civile, presque à se joindre au mouvement anti-masque, oh là là, on a franchi vraiment un saut de paradigme, alors que fondamentalement, qui dit deuxième vague, dit énormément de fragilités humaines, des fragilités. Donc, je voyais mal l'Église en sortie, cette attention aux personnes vulnérables. Donc, comme si ces personnes-là, vraiment, défendre leur messe, c'était beaucoup plus sacré, finalement, que de répondre aux nombreuses souffrances qui vont forcément accompagner cette deuxième vague. Donc, ça m'a laissé vraiment sur un malaise, même si j'insiste et je le redis, je suis content quand même que ces lieux de culte a été maintenu parce qu'il y a quand même vraiment un effet cathartique là, pour faire face à des temps éprouvants comme les nôtres pour un grand nombre de chrétiens et chrétiennes.
Alors, écoutez, à partir de minuit, de une minute demain matin, là, on va être en zone rouge pour la plupart du Québec, en tout cas près de 5 millions de personnes, ça veut dire les grandes régions de Montréal, là, les 82 villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, et aussi de la capitale nationale, et aussi de Chaudière-Appalaches. La majorité des lieux de culte sont situés dans cette région-là. C'est le cas pour les synagogues, c'est le cas pour les mosquées. Pour les églises catholiques ou protestantes ou anglicanes, il y en a davantage un peu partout sur le territoire, mais il reste que les plus grands lieux de culte, chrétiens, juifs ou musulmans, seront limités à 25 personnes par activité. J'ai le goût de vous poser la question, Suzanne. Si bon nombre de leaders religieux ont été très contents de pouvoir demeurer ouverts pour au moins 25 personnes, alors que les musées, les salles de spectacle, les théâtres sont obligés d'être fermés, il reste qu'à 25 personnes, un lieu de culte peut difficilement survivre financièrement.
Oui, mais c'est pas ma préoccupation pour vous dire la vérité. Je pense que ça s'applique. Je reviens au manque de cohérence dans les décisions touchant les lieux publics qui touchent tant la religion que la culture que le loisir.
Oui.
Et qu'on soit dans la zone rouge, c'est clair que la moitié de la population du Québec est dans la zone rouge. Que la majorité des lieux de culte sont dans la zone rouge et qu'on est coincé à accueillir un maximum de 25 personnes, c'est clair qu'il n'y a pas un lieu de culte qui va survivre financièrement. Et de toute façon, il ne survivait pas à 250.
Mm-hmm.
On sait que ça a affecté Oui, les églises, mais les e-commerces, les entreprises, les salles de cinéma, etc. Tout le monde est dans le même bateau d'être frappé au plan économique et frappé durement. Ma question, c'est beaucoup plus de dire la pertinence de ces 25 personnes dans un lieu de culte. Quel sens on donne, dans le fond, à ces lieux-là, qui sont des lieux de recherche de sens, qui sont des lieux communautaires, qui sont des lieux qui offrent des repères. Et en temps de crise, on a besoin de lieux qui offrent des repères, qui offrent des possibilités de se voir. Et je souligne, pour avoir fréquenté un lieu de culte pendant le confinement et pendant le déconfinement, c'est-à-dire depuis le mois de juillet, et comme dans les bibliothèques et comme dans les salles de spectacle, etc., les mesures étaient respectées rigoureusement. Il y a eu un effort de bénévoles qui ont investi dans les communautés pour protéger la santé publique. Et ça, on balait ça d'un revers de la main. Bon, que ça survive financièrement, ben non, ça ne survivra pas financièrement. Mais moi, pour moi, l'enjeu, c'est les lieux de sens pour la population québécoise sont effacés actuellement. Et c'est vrai pour la culture et c'est vrai pour la religion.
J'ai le goût de vous lancer là-dessus en terminant, Louis Rousseau. Suzanne Loisel parle de repères, de lieux de sens. On a l'impression que le gouvernement ne comprend pas cette réflexion-là. Il peut parler de santé psychologique des gens et l'importance d'avoir des liens sociaux, mais l'importance du sens, on dirait que c'est évacué dans les analyses gouvernementales.
Oui, c'est là qu'on va constater certaines déficiences, je dirais, de savoir au sein de ce gouvernement, de savoir qui est déjà accessible. Et par exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je vais n'insister que sur cela, c'est très connu dans le monde de la des thérapies en général que la pratique religieuse a un effet très positif pour l'état de santé de l'individu à tous les niveaux. C'est dans une perspective d'intégrative. La pratique religieuse a une portée thérapeutique. Ça aide les gens à faire face aux crises de tout type et les aide à faire face à ça à cause du sens, à cause d'un sens qui est pas juste dit, c'est pas parce qu'on peut tous lire un livre tranquille à la maison, mais d'un sens qui est partagé, comme Suzanne le disait. C'est-à-dire, ça se fait en groupe. Quand je me retrouve dans un lieu de culte à dire, par exemple, une prière pour ne point parler des chants, parce que on a arrêté de chanter en communauté, pour ajouter là à ce que disait Suzanne sur la qualité des soins qui ont été pris dans ces lieux de culte-là, cela donne de l'énergie, cela conforte la capacité de faire face à l'adversité. Ce n'est pas la seule chose, et Suzanne a bien raison de mettre la pratique religieuse au même niveau qu'une pratique culturelle plus large, c'est-à-dire qu'il faut voir au-delà de son horizon immédiat où on se retrouve pogné tout seul, pour employer une expression qui est mise en guillemets, mais qui a beaucoup de portée. Alors, il y a là ce gouvernement, et je souligne ce que disait Suzanne aussi, ce gouvernement est aveugle quant à la religion, d'une manière générale, dans toutes ses politiques. Est l'héritier d'un discours qui est uniquement négatif. La religion, c'est la catastrophe de l'humanité. Bon, l'humanité est en catastrophe depuis des centaines de milliers d'années, mais on se demande bien pourquoi que l'humanité a survécu quand même à la religion. Ma réponse, c'est que la religion fait partie des instruments de survie et que dans le contexte d'une crise comme celle-ci, prenons note. Et je suis pas écouté par le gouvernement, j'ai aucune autorité. Mais prenons bien note que parmi les instruments qu'il faut se préparer à avoir en état de fonctionnement optimal, il y a les instruments symboliques Et la culture, c'est essentiellement ce vaste domaine-là. Et parmi les instruments symboliques, la pratique religieuse fait partie de l'équipement de survie que l'État québécois devrait, à sa manière et sans se mêler des choses, protéger. Et là-dessus, ça fait d'ores et déjà, à mon avis, partie d'une des conclusions. Avec quoi il faut, qu'est-ce qu'il faut préparer lorsque la crise écologique va encore devenir plus évidente et nous toucher à tous les jours? Alors, voilà un peu, je dirais, une des choses que nous soulevons à plusieurs ce matin, dans cette espèce de bilan des stratégies que collectivement nous prenons en compte. On a été un peu négatif. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Mais là, c'est aussi le temps de commencer à dire où ça a manqué et de quoi ça a manqué. Et je pense que nous ajoutons avec d'autres, hein, parce que le milieu culturel a fait depuis 48 heures des critiques absolument aussi fondée que celle que je viens de faire à propos de l'ignorance de la fonction thérapeutique du religieux.
Alors, vous avez raison, parce que le milieu culturel, lorsqu'il a fait ses doléances, particulièrement hier, en apprenant que l'ensemble de ces milieux-là seraient fermés à partir de demain, a utilisé des termes qui étaient les mêmes qu'avaient utilisé les leaders religieux pour espérer que le gouvernement puisse changer d'idée. Alors, il reste que demain matin, à partir de demain, l'ensemble des lieux de culte en semaine, la fin de semaine, les vendredis, les samedis et les dimanches pour les synagogues, les mosquées et les églises, ce sera limité à 25 personnes en zone rouge. J'imagine qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler dans les prochains jours parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va avec ces couleurs-là, la couleur rouge qui va devenir prédominante au Québec. Alors, on est dans le dernier droit de notre émission Foi et Turbulence. Il reste peu de temps, mais on a choisi de garder un petit segment. Et je vais demander à nos invités de réagir en résumant bien leurs propos. Mais on voulait on s'est rendu compte, en fait, qu'on discute énormément de la COVID-19. Ça occupe toutes nos pensées depuis 6 mois. Mais il y a bien des sujets qui sont occultés ou dont on ne parle très peu dans les médias, tout occupé à juguler cette crise-là. Nos analystes vont nous inviter là à tourner notre regard vers des situations qui se déroulent dans d'autres pays ou encore des débats qui sont mis de côté dans cette période de la pandémie. Suzanne Loisel, vous nous amenez en Haïti.
Oui, je vous amène en Haïti et je suis absolument consternée du silence actuellement médiatique et autres sur la situation actuelle.
Et pas seulement de la COVID en Haïti.
On a beaucoup d'autres choses à parler que de la COVID. Et la situation s'est gravement détériorée dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ça touche l'accès aux services sociaux de base, comme l'éducation, la santé, l'électricité. Ça touche les activités économiques génératrices de revenus. Ça touche la situation de l'État de droit. Et actuellement, la situation se caractérise par la corruption à grande échelle, et on a déjà parlé dans le cadre de cette émission de tout scandale autour de Petro-Caribé, qui n'est pas encore résolu. La situation actuelle est aussi caractérisée par une terreur institutionnalisée et par une impunité à grande échelle. Les perspectives actuellement sont très inquiétantes. On sait que le président veut s'accaparer le pouvoir en organisant des élections, en réformant la Constitution. On a parlé des élections aux États-Unis, mais il y a des élections qui se préparent ailleurs, dont en Haïti, et en dehors de tout cadre légal constitutionnel. Et la situation s'est particulièrement aggravée tant au plan constitutionnel, au niveau de la situation des droits, au niveau économique, etc. Mais il y a des caps qui ont été franchis, entre autres par l'assassinat du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, Maître Dorval. Un massacre important dans un quartier de Port-au-Prince qui s'appelle Bel Air. Par la mise en place d'un inconstitutionnel, d'un conseil électoral provisoire pour hâter reporter la tenue d'échéances électorales. Et pendant ce temps, la communauté internationale, y compris les États-Unis, y compris tous les membres du core group, dont le Canada, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'on se range du côté de Jovenel Moïse pendant que la population est affamée, elle est massacrée, elle est terrorisée.
Alors, donc, une invitation, en tout cas, de Suzanne Loisel, de s'intéresser davantage à ce qui se passe en Haïti, peut-être en regardant des médias d'information alternatifs sur qui pourraient nous donner plus d'informations.
Tout à fait. Et on sait qu'il y a une communauté haïtienne très importante à Montréal et au Québec, ne serait-ce que par solidarité avec des confrères, consoeurs québécois, québécoises d'origine ou d'adoption.
Merci beaucoup, Suzanne. Frédéric, vous nous emmenez. En 2019, il y avait un synode sur l'Amazonie et vous nous rappelez l'Amazonie, justement, en 2020.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un enjeu fondamental. Bon, on sait que, par exemple, que l'une des sources de la COVID, donc c'est vraiment le contact entre humains et animaux. Or, on sait que ce qui passe présentement en Amazonie, particulièrement en Amazonie brésilienne, donc c'est on est en train de détruire donc le poumon de la planète, et on est quand même aussi dans un horizon aussi de changement climatique qu'on n'arrive pas à juguler. Pour développer quoi? Pour développer vraiment de la culture bovine à très grande échelle et de l'agriculture donc bovine à grande échelle. Donc ce contact entre humains et animaux, cette aggravation donc des changements climatiques. Et ajoutons à cela que le Canada de M. Trudeau en ce moment est en train de signer un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, donc les pays d'Amérique du Sud, donc le marché commun d'Amérique du Sud, dont est mort évidemment le Brésil de Jair Bolsonaro, lequel vraiment est non seulement donc soutenu là, par ce lobby donc des gens du bœuf, donc des producteurs bovins, mais tout ça se fait sur le dos aussi des gardiens de la forêt que sont les peuples autochtones.
Donc, alors, merci. Oui, je vais devoir vous arrêter là, Frédéric. Alors, portez une attention spéciale à la question du climat. Il nous reste très peu de temps. Louis Rousseau, vous vous intéressez au vaccin?
Oui, ben écoutez, rapidement, cette crise est une crise mondiale. Est-ce que chaque pays va aller de manière égoïste pour s'acheter le maximum de vaccins et pas penser aux autres, ou le contraire? Je veux simplement, parce qu'il faut aussi voir la création de collaboration internationale, existe un programme qui s'appelle COVAX, Programme mondial d'achat de vaccins dans le cadre de l'organisation internationale, dont, par exemple, l'OMS, et l'Alliance des vaccins de la Fondation Bill et Gates. C'est quelque chose qui nous montre qu'il y a aussi de la solidarité. On veut empêcher que les riches gobent tous les vaccins et laissent mourir le reste de l'humanité. Alors, je nous rappelle ça pour qu'on termine cette émission avec un brin d'espoir. L'humanité est capable de faire quelque chose.
Alors voilà, l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de Pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 14 septembre 2020. On vous y donne rendez-vous. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Suzanne Loisel, Frédéric Barriot et Louis Rousseau. Merci à Mathieu Lavigne, coordonnateur, et à Daniel Fortin à la régie. Ici François Cloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence. Yes.